vous permettrait de rester debout, ça permet de mieux vous voir, parce que quand on est assis, d'une part, vous ne voyez pas, je ne vous vois pas, et donc je ne vois pas si je parle trop vite ou si c'est trop compliqué. Donc l'habitude, c'est effectivement, c'est en regardant les gens qu'on se rend compte de la réception de ce qu'on dit. Donc je reste debout comme ça, c'est pas du tout par désir de puissance, qui m'est très très éloigné pour ceux qui me connaissent. Donc j'ai intitulé ce texte que vous aurez donc sous la forme à la fois papier et d'après ce que j'ai compris aussi enregistré, de l'expérience du martyr à la foi en la résurrection. Ma question est celle-ci. D'où vient en Israël la foi en la résurrection? Vous apercevrez en m'entendant que, effectivement, j'enseigne l'Ancien Testament. Et je suis professeur d'Ancien Testament, puisque nous resterons essentiellement dans l'Ancien Testament, dans cette conférence. Mais j'ai vu que vous aurez demain, avec M. Schirtaz, accès à Saint Paul, avec 1 Corinthiens 15, que du reste, je vais enseigner cette même semaine, mais à la faculté, pour mes étudiants, donc vous ne serez pas frustrés. Je commence par faire une première remarque. Il faut se rappeler que l'anthropologie biblique n'est pas dualiste. Il n'y a pas de séparation entre le corps et l'âme dans le monde sémitique, mais pour un juif, nous sommes un corps animé par le souffle vital. Et ça, c'est essentiel. L'influence grecque va bien sûr influer sur le monde juif à partir des conquêtes d'Alexandre en 332 avant Jésus-Christ, et ça aura encore plus d'importance lorsque Jérusalem va tomber dans l'orbite des Séleucides, c'est-à-dire des rois d'Antioche, à partir de l'an, disons, 200, pour faire simple. Mais il est assez faux de croire qu'il y aurait un judaïsme de langue grecque qui croirait en l'immortalité de l'âme, alors que le judaïsme palestinien de langue hébraïque croirait en la résurrection des morts. L'anthropologie biblique n'est pas du tout comme celle des Grecs. Elle n'oppose pas le corps, la matière, et ce qu'on va appeler plutôt en hébreu la nefesh, c'est-à-dire le principe vital. Nous sommes des corps animés. Saint Paul dira que nous sommes des soma pneumaticon, des corps pneumatiques. Vous voyez, des Michelin en puissance. Comme l'attestent de nombreux psaumes, seul le vivant donc peut louer le Seigneur, tandis que le mort, qui est dans le Sheol, le séjour des morts, mène une vie larvaire. Si bien qu'un sage, au tout début du IIe siècle avant Jésus-Christ, pouvait encore écrire, je vous le cite, « Lorsque l'homme est mort, son héritage, ce sont les vers, les larves et les insectes. » Je vous cite ici le livre du Siracide, Jésus ben Sirac, mais dans sa version hébraïque. Vous connaissez le texte de vos Bibles, c'est la version grecque du Petit-Fils. Il se trouve qu'on a trouvé à Qumran et dans la Geniza du Caire les originaux hébraïques du Siracide, et donc je vous cite ici l'hébreu. L'homme mort, lorsque l'homme est mort, son héritage, ce sont les vers, les larves et les insectes. Voilà qui peut sembler étonnant. Israël, le peuple à qui Dieu a maintes fois parlé, s'est ouvert en dernier dans tout le Proche-Orient, à la fois en la résurrection. On oppose souvent à cette affirmation un texte comme les ossements desséchés dans Ézéchiel. Mais quand vous lisez bien le texte d'Ézéchiel chapitre 37, je vais le faire dans quelques instants, vous verrez que le texte d'Ézéchiel ne parle pas de résurrection des morts, mais de survie d'un peuple qui revient d'exil. L'horizon reste ici celui de la terre, sans dimension post-mortem. Il est d'autant plus symptomatique que l'influence de l'Égypte a été très forte dans la sagesse égyptienne, biblique, puisque une partie entière du livre des Proverbes recopie presque intégralement la sagesse d'Aménémopée, mais par contre, vous n'avez dans la Bible aucune trace, par exemple, du livre des morts de l'ancienne Égypte et des croyances en la survie telle que l'Égypte l'a montré. Décidément, Israël a eu du mal à croire en la résurrection des morts. Pourtant, il y aura deux points qui vont permettre à Israël d'évoluer dans sa foi dès avant l'exil, c'est-à-dire le 5e siècle, pour faire simple. D'abord, des influences anciennes qui viennent de Canaan. Or, dans ces influences anciennes qui viennent de Canaan ou du monde phénicien, nous avions des dieux, tels Baal, qui mouraient en hiver et qui revivaient avec le printemps. Donc l'idée d'une survie après la mort se trouvait dans l'horizon d'Israël, à travers la Phénicie ou Canaan. Et le prophète Élie s'en moque allègrement quand il dit, pensez au texte de 1 Roi 18, « Criez plus fort, c'est un dieu, il est occupé, peut-être qu'il s'absente, peut-être qu'il va revenir. » Vous voyez bien que Élie se moque de cette idée d'un dieu qui meurt et qui peut ressusciter. Il faut aussi entendre en ce sens les dénonciations par les prophètes de la vénération des bosquets ou des arbres sacrés qui étaient liés au culte d'Adonis, un autre dieu qui meurt et qui ressuscite. On voit donc, malgré son influence, jamais Israël ne s'est ouvert facilement à la foi en la résurrection des morts. Pourquoi ? Parce que c'était lié à des idoles, à des dieux autres que le Dieu d'Israël. Or, affirmant l'unique Dieu qu'est le Dieu d'Israël, on ne veut pas l'aligner sur ce que sont les Baals de Phénicie ou les dieux de l'Égypte, ce qui explique la réticence d'Israël. Mais il y a une autre force qui a joué en sens contraire. C'est l'idée de l'alliance. L'alliance conclue entre Dieu et son peuple est une pierre d'attente pour autre chose, qui fait dire par exemple au prophète Osée, au chapitre 6, versets 1 et 2, ces mots, Osée, il prêche au 8e siècle. Je parle tout le temps en ancien franc, donc avant Jésus-Christ, bien sûr. « Venez, retournons vers notre Dieu. Au bout de deux jours, il nous rendra la vie. » Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Ce texte d'Osée, sans affirmer pleinement la résurrection des morts, situe la vie de l'homme dans un contexte d'alliance. Et c'est ainsi que je relis avec vous Ézéchiel 37. À ceux qui disent « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces », Dieu fait cette réponse. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Je vous rétablirai sur votre sol, alors vous connaîtrez que moi, je suis le Seigneur qui dit et qui fait, oracle d'Adonai. Vous le voyez bien, il s'agit ici d'une résurrection nationale, œuvre d'un Dieu qui reste fidèle à son alliance. Sous le choc du deuxième siècle avant Jésus-Christ et la persécution des fidèles par les Grecs, de tels textes vont être relus de manière individualisée. Mais il faut attendre le deuxième siècle avant Jésus-Christ, l'époque des Maccabées et des grandes persécutions, pour que naisse vraiment l'idée de résurrection. Certains psalmistes, au nom de l'Alliance déjà, y avaient un peu pensé. Je vous invite à lire le psaume 73, versets 23 à 28. « Je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras selon tes vues. Tu me prendras derrière la gloire. Qui aurais-je au ciel? Puisque je suis avec toi, je ne me plains pas sur terre. J'ai le corps usé, le cœur aussi, mais le soutien de mon corps, mon patrimoine, c'est Dieu pour toujours. Vois donc, qui s'éloigne de toi périra, tu détruis qui te laisse et se prostitue. Mon bonheur à moi, c'est d'être près de Dieu. J'ai pris refuge auprès du Seigneur, Dieu, pour annoncer ses actions. » Le psalmiste affirme à travers l'alliance la permanence de la vie avec Dieu. Derrière cette prière se lit donc une confiance en l'Alliance, la certitude d'être écouté et d'être sauvé par la vie même de Dieu. Or, cette foi va être mise en crise une nouvelle fois quand le sage verra le juste souffrir, quand le prospère, au contraire, quand prospère le méchant. Cette tranquille certitude que je lis dans le psaume 1, l'homme juste qui ne prend pas le parti des méchants est semblable à un arbre planté près du roseau, tandis que le méchant est comme la balle agitée par le vent, va se heurter au cri de Job. Je vous lis ce que dit Job au chapitre 9, verset 22. C'est tout un, j'ai bien dit, l'innocent comme le scélérat, Dieu les anéantit. L'horizon de Job au IVe siècle reste borné, opaque, mystérieux pour l'homme. Écoutons cette plainte de Job au chapitre 14. Il existe pour l'arbre un espoir. On le coupe, il reprend encore et ne cesse de surgener. Que sa racine ait vieilli en terre, que sa souche soit morte dans la poussière, dès qu'il flaire l'eau, il bourgeonne et se fait une ramure comme un jeune plant. Mais un héros meurt et s'évanouit. Quand l'homme expire, où donc est-il? L'eau aura beau quitter la mer, le fleuve tari aura séché. Les gens ne se relèveront pas. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, ils ne s'éveilleront pas, ils ne ressurgiront pas de leur sommeil. Une telle détresse n'est moins, me semble-t-il, de la souffrance du juste ou de l'humiliation qu'il endure que d'une foi blessée dans sa racine. Dieu n'est pas juste s'il réserve le même sort au juste et à l'impie. Plus encore, si Dieu laisse le méchant prospérer quand l'innocent endure une vie de souffrance, Dieu est pervers. Il ne reste plus à Job que son défi final, et je vous lis le chapitre 31, « Qui me donnera quelqu'un qui m'écoute ? Voici mon dernier mot au puissant de me répondre. » De son côté, un autre juste s'interroge aussi. Il s'appelle Coëlette. On l'appelle parfois l'Ecclésiaste. « Vanité des vanités, » dit Coëlette. « Vanité des vanités, tout est vanité. » Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Un âge s'en va, un âge vient, la terre subsiste toujours. Sa voix n'est pourtant pas celle de la désillusion. Coëlette est tout sauf pessimiste. C'est celle du bonheur simple. Mais Coëlette sait que ce qui distingue l'homme de l'animal est un savoir, et un savoir douloureux. Je vous lis le chapitre 9 de Coëlette. Pour tous les vivants, il y a une chose certaine. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien du tout. Pour eux, il n'y a plus de rétribution, puisque leur souvenir est oublié. Leur amour, leur haine, leur jalousie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais de part à quoi que ce soit sous le soleil. Nous sommes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alors que reste-t-il à l'homme? Eh bien, à savourer la consistance de l'instant, à vivre sa brève existence terrestre dans une conscience de l'éternité, car cela aussi est un don de Dieu. Je cite Coëlette. « Va, mange avec joie ton pain, et bois du bon vin, de bon cœur, car Dieu a agréé tes œuvres. Que tes vêtements soient toujours blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Goûte la vie avec la femme que tu aimes durant tous les jours de ta vaine existence. Puisque Dieu te donne sous le soleil tous ces jours vains, c'est là ta part dans la vie et dans le travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main se trouve capable de faire, fais-le par tes propres forces, car il n'y a ni œuvre, ni bilan, ni savoir, ni sagesse dans le séjour des morts où tu t'en iras. libertaire le sage, carpe diem, certes pas, moraliste plutôt. Que sert à l'homme de bâtir des plans sur la comète, de visiter tous les savoirs, s'il n'a pas d'abord conscience de sa mortalité qui donne le poids au temps et au temps? Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour bâtir et un temps pour détruire, un temps pour jeter les pierres et un temps pour ramasser les pierres. Voici donc l'horizon sur lequel, au IIe siècle, va s'ouvrir la foi en la résurrection. Vous le voyez, à travers le langage des psaumes de Job et de Coëlette, l'horizon d'Israël reste borné à l'existence terrestre, avec ces deux questions lancinantes, celle de la justice de Dieu et celle de la mortalité de l'homme. C'est dans cet horizon donc que va naître, à partir du IIe siècle, avant Jésus-Christ, la foi en la résurrection des morts. Et celle-ci va éclore dans le milieu des Hassidim, les pieux, lorsque ces derniers s'opposent à d'autres juifs qui, eux, fortement hellénisés, s'appuient sur Antiochus IV Épiphane. En 167, le souverain grec instaure une nouvelle liturgie au temple de Jérusalem. Il oblige la population à participer à des repas rituels où on mange du cochon. Et la répression s'abat sur les opposants. Les livres de Daniel et des Maccabées brossent le portrait de ce temps de ténèbres. Je vous lis un extrait du premier livre des Maccabées. Plusieurs en Israël acceptèrent de mourir plutôt que de consommer des mets impurs et de profaner ainsi l'alliance. Alors ils moururent. J'ai dit plus haut que l'auteur du livre de Job s'oppose à une conception ancienne, un peu archaïque, qui dit que le juste est comblé quand l'injuste, lui, est battu en brèche, tel qu'on le trouve par exemple dans le psaume 37, un peu trop optimiste. Job a fait une toute autre expérience. C'est que, à côté de la belle mort, celle de l'homme qui meurt rassasié de jours, d'enfants et de temps, il y a aussi les morts autrement plus troublantes de celui qui meurt jeune, sans avoir laissé de descendance. Mais le problème posé au IIe siècle est encore beaucoup plus grave, car il s'agit de juifs fidèles à Dieu et qui meurent à cause de leur fidélité à Dieu. Pour être restés fidèles à la foi de leur père, ils endurent le martyre. Si Dieu est juste, peut-il ne rien faire? Strictement contemporaine donc de cette crise du IIe siècle, apparaît pour la première fois dans le livre de Daniel, au chapitre 12, versets 1 et 3, cette affirmation. Daniel, on le date en général de l'année 165, avant Jésus-Christ. Et Daniel 12 dit ceci. « Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. Ceci pour la vie éternelle, cela pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. » Ce que Daniel dit au début du IIe siècle était déjà entrevu dans ce qu'on appelle la grande apocalypse d'Ésaïe, c'est-à-dire les chapitres 24 à 27 du livre d'Ésaïe, dont la composition est largement tardive, elle est post-exilique, peu importe. Mais je lis en Ésaïe 26, verset 19, ce verset. « Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront, réveillez-vous, criez de joie, vous qui demeurez dans la poussière. » Car ta rosée est une rosée de lumière, et la terre, au trépassé, rendra le jour. Si ce verset n'est pas une relecture tardive de l'époque des Maccabées, IIe siècle, il témoigne donc, en pleine période perse, au IVe siècle, d'une première percée de l'image de la résurrection en Israël. Mais celle-ci était encore réservée à quelques cercles prophétiques élitistes. ce qui est neuf avec l'expérience du martyr que vit Israël au début du deuxième siècle, c'est que la foi en la résurrection devient le lot commun de tous. C'est donc l'impact du martyr et la question de la justice de Dieu qui fait naître en Israël la conception même de la résurrection. La formulation de Daniel 12 n'est pas d'ailleurs une création ex nihilo, à partir de rien. Elle est le fruit d'une maturation intéressante. Quand vous lisez par exemple le texte de Ésaïe, chapitre 53, versets 10 et 12, ce qu'on appelle le serviteur souffrant, que nous catholiques nous lisons pour l'office du Vendredi Saint, mais je pense qu'il en est aussi de même pour vous. Qu'est-ce que nous lisons en Ésaïe 53, versets 10 à 12 ? Le serviteur verra la lumière. Or là, je vous cite la traduction grecque et non pas l'hébreu, la Septante, qui montre donc qu'on a fait entre le texte hébreu et la traduction grecque, qui est antérieure de deux siècles, un progrès, et on dit que par ses souffrances, le serviteur verra la lumière. Et cette lecture est d'ailleurs attestée par certains manuscrits hébreux retrouvés à Qumran. C'est donc à partir entre le deuxième, le quatrième et le deuxième siècle que se joue véritablement la question de la résurrection. Et elle trouve son écho le plus éclatant dans un livre qui certes n'appartient pas à la tradition réformée, mais qui pour les catholiques et les orthodoxes est deutérocanonique, c'est le livre des Maccabées. Je vous raconte donc cette histoire que vous connaissez sans doute moins, c'est l'histoire de sept frères et de leur mère, qui restent fidèles à la foi de leur père, c'est-à-dire la foi des pères d'Israël. Et voici les propos que la mère tient à ses fils en 2 Maccabées, chapitre 7. Je vous lis cet extrait que vous trouverez dans mon texte. « Je ne sais pas comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments dont vous êtes composés. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé l'homme à sa naissance et qui est à l'origine de toute chose, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie ? Parce que vous vous sacrifiez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. Je te conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre, contemple tous ceux qui y est en eux, et reconnais que Dieu les a faits de rien, et que la race des hommes est faite de la même manière. Ne crains pas ce bourreau, mais te montrant digne de tes frères, accepte la mort, afin que je te retrouve avec tes frères au temps de la miséricorde. » Il est remarquable que cette première grande énoncée de la foi en la résurrection, par la mère des Maccabées, s'articule sur l'Écriture et sur la loi elle-même, refusant, dans le même texte, de manger la viande de porc, interdite par la loi. Les sept frères, nous dit le texte, s'exercer mutuellement à mourir courageusement en disant « Le Seigneur voit, et en vérité, il a compassion de nous, ainsi que Moïse l'a annoncé par le cantique qui proteste ouvertement en ces termes. » Et là, on cite Deutéronome 32, 36, que je vous lis, « Il aura pitié de ses serviteurs. » La citation est très bien choisie, car le contexte de Deutéronome 32 mentionne la participation aux repas et sacrifices des païens. Mais on voit donc que c'est par miséricorde pour les justes que Dieu ressuscitera les justes d'entre les morts. À plusieurs reprises d'ailleurs, le deuxième livre des Maccabées répète encore que la justice de Dieu s'exercera après la mort en raison même de sa miséricorde. Émile Puech, qui a étudié notamment l'idée de résurrection dans le judaïsme pré-chrétien, les textes de Qumran, dit ceci. Le fondement scripturaire de la résurrection relève donc du concept de la justice divine. L'obéissance à la loi c'est-à-dire à la parole de Dieu, conduit à la vie. Nous sommes ici dans un total dépassement de ce que le Proche-Orient ancien avait dit de la survie après la mort. Vous le voyez donc, la croyance en la résurrection, c'est-à-dire en la vie future, est posée par la Bible dans une perspective très différente de celle que l'on rencontre dans les religions ou philosophies qui affirment que l'être humain possède en lui un principe de soi immortel, l'âme. Pour les Ratzidim, pour les pieux, qui confessent à partir du IIe siècle la résurrection, puis pour tous les Juifs, de plus en plus nombreux, qui croiront en cette foi, jusqu'aux chrétiens que je suis, la résurrection n'est pas une réponse à mon désir d'immortalité, ce qu'elle était en Égypte. La vie après la mort est plutôt une recréation par laquelle Dieu tire de la poussière ce qui, de soi, devait rester poussière. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Genèse 3, verset 19. Loin d'être donc automatique, la résurrection est ce qui permet à la justice de Dieu de s'exercer pleinement. Le Dieu saint et juste, apparemment silencieux et inactif dans le monde, ne peut tolérer éternellement que les fidèles soient maltraités et massacrés, tandis que les persécuteurs coulent des jours paisibles. Un jour viendra où Dieu manifestera à travers la résurrection le retournement de l'injustice. Nous sommes donc dans une toute autre perspective que celle de l'Égypte. Cette même foi, d'ailleurs, traverse le martyr de Ratzis, Ratzis qui est un autre juif pieux du livre des Maccabées, dont on dit qu'il préfère le martyr plutôt que de se jeter ou d'être pris entre les mains des criminels. Dans ce désir du martyr, il veut d'abord se suicider par un couteau, mais il se rate, il se jette des remparts. Le texte est un peu mélodramatique, excusez-moi vous qui venez de manger, mais je vous cite de Maccabée 14, car il est très intéressant. Respirant encore, je vous rappelle que le type s'est jeté sur son épée qui s'est ratée et qui se jette du haut du rempart. Vous voyez un peu dans quel état il est. Respirant encore, on ne sait pas comment, enflammé d'ardeur, il se releva tout ruisselant de sang. Et malgré de très nombreuses blessures, il traversa la foule en courant. Il a du souffle. Enfin, debout, sur une roche escarpée, tout à fait exsangue, il s'arracha les entrailles et les prenant à deux mains, il les jeta à la foule en disant, priant, alors c'est ça qui est important, priant le maître de la vie et de l'esprit de les lui rendre un jour. Ce qui est important dans le texte, ce n'est pas le côté gore qui plairait à vos adolescents, d'enfants ou de petits-enfants, mais de voir que cet homme-là, il exprime la certitude que ce corps, Dieu le lui rendra un jour. Et à travers cette mort terrible, il réaffirme la foi en la résurrection de la chair. Comme précédemment dans l'histoire des deux frères, s'exprime donc ici l'espérance de la résurrection des corps en termes de recréation dans un contexte de la justice et de la miséricorde de Dieu. Il est un autre versant, et là, le catholique que je suis va avancer sur des œufs, mais je suis aussi historien des religions, et c'est ainsi que je parlerai. Il est un autre versant de cette foi qui s'exprime aussi dans ce même livre des Maccabées. C'est la solidarité entre le monde des vifs et le monde des morts. C'est dans le chapitre 12 des Maccabées, le sacrifice offert par Judas pour les Juifs coupables et qui sont tombés au combat. Je sais bien que ce livre n'est pas pour la réforme canonique, mais il est intéressant de voir que dans ce contexte-là aussi s'affirme la résurrection. Je vous décris ce texte. En relevant les Juifs morts au combat, Judas s'aperçoit que sous leur tunique, ils avaient des objets consacrés aux idoles, que la loi interdit. Comment alors réagir? D'abord par un beau sermon que fait Judas aux combattants, en leur montrant que c'est par leur injustice qu'ils sont frappés. Mais Judas va plus loin, et je vous cite intégralement la finale de ce récit. De Maccabée, chapitre 12, versets 43 à 45. Ayant fait une collecte de 2000 drachmes, il l'envoya à Jérusalem afin qu'on offrît un sacrifice pour le péché. Et voici le commentaire du livre. Agissant fort bien et noblement en raison du concept de la résurrection. Car s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et vain de prier pour les morts. Et s'il envisageait au contraire une très belle récompense réservée à ceux qui dorment dans la paix, c'est là une pensée sainte et pieuse. C'est pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire en raison de la résurrection des morts. Plus que ce sacrifice, je retiens donc le commentaire qui explicite le lien entre l'acte de piété de Judas et la croyance en la résurrection des morts, qui fait qu'il y a une solidarité entre les vivants et les morts. Sur ce point joue encore la miséricorde, celle d'une solidarité humaine que la mort n'arrête pas, n'altère pas, et qu'il convient de lier aussi à la prière des justes. Dans une vision qu'a Judas, juste avant le combat, de Maccabée 15, on lit ceci. Voici le spectacle qui lui a été offert. L'ex-grand prêtre Onias, cet homme de bien, d'un abord modeste et de mœurs douces, distingué par son langage et adonné dès l'enfance à toute pratique de vertu, Onias étendait les mains et priait pour toute la communauté des Juifs. Ensuite apparut à Judas, de la même manière, un homme remarquable par ses cheveux blancs et par sa dignité, revêtu d'une prodigieuse et souveraine majesté. Prenant la parole, Onias dit « Celui-ci est l'ami de ses frères, qui prie beaucoup pour le peuple et pour la ville sainte tout entière, c'est Jérémie, le prophète de Dieu. » Quel que soit le sens qu'on donne à ce texte, suivant son appartenance confessionnelle, la présence dans le ciel, c'est-à-dire le monde des vivants, du grand prêtre assassiné Onias, et plus encore de Jérémie le martyr, est très intéressante. Onias a traversé l'épreuve ultime, car il a été massacré en raison de sa foi. Et Jérémie aussi, d'après la tradition juive, a été martyrisé. On en a le récit dans la vie des prophètes, que Jésus cite aux pharisiens, quand il leur reproche notamment d'élever des tombeaux aux prophètes, alors que eux-mêmes, les Juifs, les ont mis à mort. De tout ce parcours, que retenir? D'abord, vous le voyez, la foi en la résurrection des morts en Israël est tardive. Elle est précisément tardive car elle ne peut pas s'exprimer en termes d'immortalité ou de désir d'immortalité. Elle est plutôt liée à l'expérience du martyr. Surtout, le livre de Job le montre aussi, elle ne répond pas à un désir humain d'être immortel, d'être tout-puissant. Ce que c'est en Égypte, où par exemple, en premier lieu, les textes des pyramides réservent la résurrection à Pharaon, le fils du soleil, avant que le livre des morts ne l'étende à tous les hommes d'Égypte. Non, la résurrection en Israël n'est pas liée au surhomme, à la surpuissance. Elle établit plutôt un lien indissoluble entre la vie et la justice divine. Si Dieu est juste, sa justice ne peut être bornée par l'horizon mortel. C'est donc au nom de la justice qu'Israël croit en la résurrection. Et bien plus tard, cette foi en la justice de Dieu, qui est sa bonté, s'exprime dans ce dialogue entre un pharisien et un sadducéen. Je vous rappelle que les sadducéens ne croient pas en la résurrection des morts, car elle n'est pas attestée formellement dans la Torah, dans la loi. Par contre, les pharisiens, eux, croient formellement en la résurrection des morts. Et le Targoum néophyti, le Targoum, c'est la traduction araméenne de la Bible, fait que la Bible est écrite en hébreu, mais l'hébreu n'était plus parlé par personne, et donc à la synagogue, on traduisait en araméen le texte hébreu. Ça donne le targoum, qui veut dire en hébreu traduction, interprétation. Le targoum néophyti, sur Genèse 4, verset 8, dit ceci. Caïn dit à son frère Abel, « Viens, sortons tous les deux au champ. » Et il advint que, et le targoum va gloser, lorsque tous deux furent au champ, Caïn, qui représente ici le Sadducéen, répondit et dit à Abel, « Je vois que le monde n'a pas été créé par amour, qu'il n'est pas régi selon le fruit des bonnes œuvres, et qu'il y a dans le jugement acception des personnes. Pourquoi ton offrande a-t-elle été accueillie avec faveur ?» Abel répondit à Caïn en disant, « Je vois, moi, que le monde a été créé par amour, qu'il est régi selon le fruit des bonnes œuvres. Parce que mes œuvres étaient meilleures que les tiennes, mon offrande à moi a été accueillie avec faveur, tandis que ta propre offrande n'a pas été accueillie avec faveur. » Caïn répondit et dit à Abel, « Il n'y a ni jugement, ni juge, ni un autre monde. Point de remise de récompense pour les justes, ni de châtiment pour les méchants. » Abel répliqua à Caïn en disant, « Il y a un jugement, il y a un juge, il y a un autre monde. Il y a remise de récompense pour les justes, et châtiment pour les méchants dans le monde à venir. » Sur cette question, tous deux discutaient en pleine campagne, et Caïn se dressa et il tua Abel son frère. À atteindre donc l'interprétation juive de la Bible, la négation de la résurrection revient à adresser à Dieu une triple critique. Dieu n'a pas créé le monde par amour, Dieu ne regarde pas la bonté de l'homme, et lorsqu'il juge, Dieu fait différence entre les hommes. Dès lors, la foi en la résurrection n'est pas matière à option pour les frères pharisiens et juifs, ni même pour les chrétiens. Nier la résurrection, c'est affirmer que Dieu serait injuste. Merci de m'avoir écouté.
Bien, nous remercions le père Abadi pour cette conférence extrêmement riche, extrêmement fructueuse, qui va peut-être nous laisser un petit peu sans voix au départ. Bon, nous lançons cependant donc les questions. Donc, est-ce que quelqu'un
a
quelque chose à demander?
Oui, si vous voulez, comme ça, on fera une photocopie pour celle-là. Vous me l'enverrez.
Donc, le texte est là. Celles et ceux qui souhaiteraient avoir des photocopies, on pourra leur faire sous quelques délais quand même. Et il sera mis sur le site. Eliane.
Je le tiens parce que j'ai peur que... Merci, Père Abadi. Je me permets de commencer ce questionnement. Et peut-être, par ma personnalité et mon origine juive, d'être en accord avec tout ce que vous avez dit avec un bel enseignement, et vous dire que nous continuons cela dans nos prières, c'est-à-dire cette foi dans le fait de la résurrection, c'est-à-dire résurrection étant effectivement l'immortalité qui passe aussi malgré tout par le phénomène du corps et surtout de l'âme. D'où, dans la Amida, nous avons cette prière tous les jours qui nous dit qu'effectivement, Dieu vivant fait revivre les morts dans le Kaddish. Et puis également, dans les communautés libérales qui réfléchissent autrement, c'est Dieu qui fait vivre les mortels. Et j'aime bien aussi cela, parce que c'est après, mais c'est aussi ici et maintenant. Et puis également le fait que, par exemple, lorsqu'il y a les attentats, notamment bien sûr en Israël, les hommes très religieux, les juifs profondément religieux, et surtout les rabbins, vont ramasser chaque partie du corps disséminé, chaque morceau de peau pour reconstituer effectivement le cadavre. Et ça, c'est très impressionnant. C'est aussi très impressionnant pour nous, juifs, et moi en particulier, plus modernes, et me poser quand même la question de ces milliards d'êtres humains aujourd'hui. Est-ce qu'il y a la place plus tard? C'est naïf, hein? Est-ce qu'il y a la place plus tard? Et je pense que la dimension d'âme, pour moi, passe même avant l'idée d'une résurrection du corps lui-même.
Alors, c'est vrai que si je m'en tiens strictement aux données bibliques, l'idée même d'âme est absente totalement de la Bible. C'est-à-dire que la néfèche n'est pas du tout l'âme. C'est, on ne peut pas traduire néfèche, c'est le principe vital. Hein. Le bachar, la chair en hébreu, c'est l'âme, c'est tout à la fois, c'est l'être humain est un, comme Dieu est un. Ce que j'ai dit pose une question, et votre tradition juive me l'a fait poser, que je n'ai pas abordée ici, mais qui était quand même sous-jacente à mon questionnement. On voit bien que c'est l'expérience du martyr et de la fidélité qui fait poser en Israël l'idée de la rétribution post-mortem. Et c'est ce qui est impliqué, c'est l'idée même de la justice divine. On comprend que la question est rebondie après la Shoah. Où effectivement, la question posée par la Shoah, et dont nul n'a réponse, il y a un très beau livre qui est le livre de Hans Jonas, Le concept de Dieu après Auschwitz, mais aussi celui de Emil Fackenheim, c'est Penser Dieu après Auschwitz, qui est moins connu, mais qui est peut-être encore plus profond. C'est, qui commence comme ça, c'est extraordinaire. Le livre de Emil Fackenheim, il rappelle comment, pendant cette guerre affreuse qu'on a connue, dans une synagogue, on prie à voix basse pour ne pas être entendu de l'extérieur, même de Dieu, parce que personne ne peut nous répondre. Nous sommes seuls. Et donc, ça pose effectivement la question terrible, et ce qui conduit à la croyance aussi. Mais dans la Bible, effectivement, c'est l'expérience du martyr qui fait naître la foi dans la résurrection. Maintenant, il faut penser au-delà aussi une question qui relève alors du philosophe, c'est comment aussi penser la résurrection à travers l'injustice faite au sort de l'acte.
Excusez-moi, c'est pour la traduction. Enfin, ce que vous nous avez dit d'Acain et d'Abel, on peut le trouver dans n'importe quelle Bible, ce dialogue? Non.
C'est dans le Targum. Alors, c'est traduit en français. La Bible est écrite en hébreu. Hein.
Oui, oui.
L'Ancien Testament, c'est de l'hébreu. Bon. Mais l'hébreu, c'est vraiment de l'hébreu au premier siècle. À part quelques rabbins et quelques grands prêtres, personne ne connaît l'hébreu. Donc, on prend l'habitude à la synagogue de traduire. Il y a le nom, de traduire les versets par oral, et la traduction en araméen, qu'elle en parlait au 1er siècle, et la mise par écrit de cette traduction, c'est le Targum. Alors le Targum du Pentateuque, on le trouve aujourd'hui en français, il a été traduit par Roger Le Déo dans la collection Sources chrétiennes au CERF. Donc les 5 tomes, vous avez même beaucoup plus. Mais c'est traduit, c'est très intéressant, parce que ça vous donne la toute première lecture juive de l'écriture. Puisque les Targum, même s'ils ont été mis par écrit au 2e, 3e siècle de l'ère chrétienne, c'est des traditions qui remontent au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc là, vous avez la toute, avant même la Mishnah, la toute première interprétation juive. Et là, on interprète donc le meurtre, le premier meurtre, comme étant le débat autour de la résurrection ou de la non-résurrection. Caïn, représentant ici les Sadducéens, donc ceux qui nient la résurrection, et Abel, les pharisiens. Et donc c'est au nom même de la justice qu'on ne peut pas nier la résurrection.
Moi j'aimerais qu'on précise un peu s'il s'agit d'une résurrection de l'âme ou du corps, ou des deux, parce que, d'après ce que j'ai compris dans les textes que vous citez, notamment dans Maccabée, apparemment, il ne s'agit que d'une résurrection du corps.
C'est-à-dire que notre grande difficulté,
oui,
c'est que, quand le veuillons, nous sommes tous des Grecs dans cette salle. On a tous été marqués par Platon. Platon qui nous dit que le soma, le soma, hein, le corps, est un semen, un tombeau. Et donc, quand le réunion, notre imaginaire oppose le corps et l'âme. La Bible, pas du tout, la question ne se pose pas pour la Bible. Parce que pour la Bible, c'est tout un. Et toucher à la chair, c'est toucher à l'âme. C'est-à-dire que, quelque part, c'est pourquoi d'ailleurs la résurrection chrétienne, elle est corporelle. Alors bien sûr que le texte des Maccabées en parle en termes grossiers. Mais je ne sais pas du tout comment sera fait, de quoi sera fait la résurrection. Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, et qui sera expliqué demain par M. Chirpaz, il dit que semés corruptibles, nous serons incorruptibles. Et comme il n'a pas de mot pour expliquer cela, il dit que nous serons des soma pneumaticon, des corps spirituels. Mais il invente un mot, parce que le mot pneumaticon n'existe pas dans le grec antérieurement à saint Paul. Donc saint Paul invente un mot pour dire quelque chose de neuf. Mais il est évident, alors matériellement je ne sais pas comment on se le fait, mais dans le credo chrétien qui est commun à toutes les confessions chrétiennes, il est ressuscité d'entre les morts dans sa chair. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les récits d'apparition, Jésus mange avec les apôtres pour montrer qu'il n'est pas un fantôme, mais en même temps, avec subtilité, l'Évangile veut montrer que le corps de résurrection n'est pas la viande d'avant-résurrection. C'est pourquoi il traverse les portes et les fenêtres. Donc, quelque part, c'est un corps qui traverse portes et fenêtres, mais qui se nourrit. Vous voyez donc que par ces images contrastées, on vous dit l'indice.
Oui, mais là, vous parlez de après Jésus-Christ, mais moi, je parle de avant Jésus-Christ. Alors, quel était le concept réel?
C'est absolument le même. Jésus, il est parfaitement juif là-dessus. C'est le même. Jésus n'est pas grec pour deux sous. C'était Bouffman qui le croyait, mais à une époque, mais maintenant plus personne ne le croit. Non, Jésus, il est juif jusqu'au bout des ongles, et chrétien aussi, vous direz. Mais il est juif jusqu'au bout des ongles. Il ne faut pas l'oublier. Donc, il n'y a pas de différence notable entre là-dessus, avec le judaïsme, nous avons absolument la même. Sauf que pour nous, la résurrection du Christ anticipe la fin des temps.
Vous avez évoqué tout à l'heure la notion de recréation post-mortem. Est-ce que dans le judaïsme antique, il y a des détails sur cette recréation?
Pas au-delà des textes de les citer. Alors, vous avez appris, on s'est interrogé. J'aurais pu poursuivre, mais bon, ça aurait été beaucoup trop long, vu le temps qui m'a été demandé. Mais il y a effectivement, dans certaines apocalypses, comme le deuxième livre de Baruch, ou dans le quatrième livre d'Esdras, on va s'interroger, et notamment, comme le fait saint Paul, c'est pareil. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va se reconnaître, par exemple? Est-ce qu'après la résurrection, on va se reconnaître? Alors, il y a un texte tout à fait intéressant, je vais vous citer, du deuxième livre de Baruch. Mais je l'ai, pardon, dans mon cartable. Parce que j'avais anticipé les questions. Donc, j'avais amené du matériel. C'est ça, les profs usés. Vous savez, ça fait 26 ans que j'enseigne. Hein. C'est pas un vieux souvenir qu'on apprend. Je vais vous citer ce texte du second livre de Baruch, parce qu'il est très intéressant, et vous allez voir que son questionnement est le même que celui de 1 Corinthiens 15. Saint Paul répond aux mêmes questions. Vous savez, Saint Paul, lui aussi, il est juif. Je vais retrouver ce texte. Oh, il est moins grec. Je vais retrouver ce texte. Est-ce que je l'ai ici? Voilà, il est là.
Voici ce texte de Baruch que je vous cite intégralement. Il est très intéressant parce que vous verrez que le questionnement, il est absolument le même que saint Paul. Alors, l'Apocalypse de Baruch a été écrite sans doute à la fin, au début du second siècle. C'est contemporain de la chute de Jérusalem, non pas celle de 70, mais contemporain de la deuxième chute de Jérusalem en 135 à l'époque d'Adrien. Et donc on se pose la question du martyr. C'est-à-dire, c'est juste comme Bar Corba, fils de l'étoile, et ces pharisiens, enfin, ces justes qui ont essayé de mener le combat, qu'est-ce qu'il va devenir d'eux? Et donc on va répondre par ce deuxième livre de Baruch. Pourtant, je te prierai encore, ô Tout-Puissant, j'implorerai ta miséricorde, toi qui as tout fait. Sous quel aspect vivront ceux qui verront ton jour? Qu'adviendra-t-il de leur splendeur après ces événements? Reprendront-ils leur figure actuelle? Revêtiront-ils à nouveau ces membres de captivité, plongés maintenant dans les maux et par lesquels les maux s'accomplissent? Ou peut-être transformeras-tu tant ceux qui furent dans le monde que le monde lui-même? Il me répondit, donc Dieu répond en ces termes. Écoute cette parole, Baruch. Alors par fiction, bien sûr, Baruch, c'est le secrétaire de Jérémie. Et par fiction, donc, on rappelle la catastrophe de Jérusalem à l'époque de Jérémie, et on la reporte au deuxième siècle de l'ère chrétienne. Écoute cette parole, Baruch, grave dans la mémoire de ton cœur tout ce que tu apprends. La terre rendra les morts qu'elle reçoit maintenant pour les conserver, sans rien modifier de leur forme. Elle les rendra telles qu'elle est reçue. Et comme je les lui ai remis, ainsi je les ferai ressusciter. Car il importera alors de manifester aux vivants que les morts vivent, que ceux qui étaient partis reviennent. Et lorsque ceux qui aujourd'hui se connaissent se seront reconnus mutuellement, le jugement rentrera en vigueur et les événements prédits arriveront. Quand sera passé ce jour fixé, alors seulement l'aspect de ceux qui auront été condamnés et la gloire de ceux qui ont été justifiés sera changé. L'aspect de ceux qui à présent font le mal apparaîtra pire qu'ils n'étaient pour supporter le supplice. De même, la gloire de ceux que justifie maintenant ma loi, de ceux qui auront manifesté leur intelligence pendant leur vie et planté dans leur cœur la racine de la sagesse, leur splendeur sera rendue glorieuse lors des transformations. L'aspect de leur visage se changera en une beauté lumineuse, afin qu'ils puissent obtenir et recevoir le monde qui ne meurt pas et qui leur est promis. Ils verront un monde maintenant invisible. Ils verront un temps qui leur est caché présentement, un temps qui ne les fera pas vieillir. Ils habiteront sur les sommets de ce monde. Ils ressembleront aux anges. Ils seront semblables aux étoiles. Ils emprunteront tous leurs aspects à leur gré, passant de la beauté à la splendeur et de la lumière à l'éclat de la gloire. Ce qui est remarquable dans ce texte, c'est qu'on vous dit deux choses totalement contradictoires, mais qui est exactement ce que dit saint Paul. C'est qu'on vous dit que la chair renaîtra telle qu'elle a été donnée à la terre. Et donc, il y a une corporéité de la résurrection. Mais on vous montre aussi qu'à travers le jugement, il y a transformation radicale, puisqu'ils seront semblables aux anges et aux étoiles. Et donc, quelque part, il y a ici, on transcende l'aspect corporel. Ça rappelle ce que dit Jésus, rappelez-vous, aux Sadducéens, l'histoire de cette femme qui a eu sept maris, comme par hasard. Et on vous rappelle que nous serons semblables aux anges. Et surtout, on vous dit qu'ils ne vieilliront pas. C'est-à-dire qu'ici, il y a un dépassement du temps et de l'espace. Donc, avec des images, car il faut bien mettre des mots pour ceux qui n'est de ceux dont nous n'avons pas du tout l'expérience. Qui de nous a ressuscité? Personne peut raconter. Mais à travers des mots et des images, on met des mots contradictoires pour dire l'indicible. À la fois la ressemblance et la transformation. l'inscription dans la chair et le dépassement du vieillissement et du temps. Et c'est dans ces paradoxes que se dit la résurrection. À travers des mots, mais aucun mot ne saurait enfermer l'indicible. C'est pareil. L'incinération, je ne vois pas la différence. Parce que moi, quand je serai, si je ne suis pas incinéré, je serai poussière. Ça revient au même. Qu'on soit poussière le jour de sa mort ou poussière 3 ans après, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Hein? Bien sûr, je sais bien que, oui, bien sûr que le judaïsme l'interdit, ça je le sais, mais même le catholicisme, qui n'est pas toujours les propos, certains propos récents nous rappelaient, n'est-ce pas? Alors, j'espère quand même que vous pensez que tous les catholiques ne pensent pas comme Benoît XVI. Bon, je ne serai pas là. Même dans l'Église catholique, maintenant, l'incinération est autorisée, sans aucun problème. Parce que le résultat est le même. C'est pas la matière qui compte. Vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de la résurrection en termes concrets. Parce que qui peut décrire Dieu? Personne. Alors comment voulez-vous décrire quelque chose dont je n'ai pas l'expérience? Je ne peux qu'en parler en termes de métaphore. C'est comme l'enfant de la mer. On ne peut en parler qu'en termes métaphoriques. En affirmant 2 choses, c'est que la résurrection est liée à la justice divine et que la résurrection, elle assume tout ce que je suis, y compris ma corporéité. C'est ça qu'on dit quand on dit résurrection de la chair. Quant au ciel, pour moi, ce n'est pas un lieu, c'est un état. Donc, ce n'est pas de savoir si, effectivement, on va être très nombreux et qu'on va être comme des sardines dans une boîte de sardines. Pour moi, le ciel, c'est un état différent. On passe dans quelque chose qui est l'au-delà du monde. Donc, moi, ce n'est pas un lieu. La question ne se pose pas. Il ne faut pas penser, de même qu'il ne faut pas penser le ciel en termes de temps, de temporalité, il ne faut pas le penser en termes de spatialité. On est hors du temps et de l'espace, on est en Dieu. C'est un état, c'est pas un lieu.
C'est un autre rapport à l'être ou tout être.
Absolument. C'est un état, c'est pas un lieu. Ni un lieu, ni un temps. Parce qu'autrement, effectivement, on rend la foi, mais complètement ridicule. Gagarine qui se balade dans l'espace et qui dit « Je n'ai pas rencontré le bon Dieu. Vous pouvez le chercher. » Il ne peut pas le trouver. Parce qu'il était en lui, il n'était pas dans la nuage. Je crois qu'il faut être raisonnable pour finir dans les temps.
Moi, je voudrais juste... Merci.
Juste dire 2 choses. D'abord, vous remercier, ça a été fait, mais je vais refaire, pour cette étude extrêmement fouillée, on a l'habitude maintenant, qu'on vous connaît bien. Extrêmement fouillée et très documentée, parce que dans des conférences ou des études, souvent on n'a pas de référence. Donc quand on veut prolonger après, c'est un peu difficile. Là, vous nous avez donné toutes les références, c'est extrêmement important. Et puis dire autre chose aussi, à savoir que vous nous avez délivré un message, vous avez dit, à propos du texte de Baruch, beauté lumineuse, une étude d'une beauté lumineuse, un message d'une lumineuse espérance dans la perspective de la Pâque chrétienne et de Pessah, la Pâque juive, et on a la chance cette année de les vivre en même temps, à quelques jours près. Voilà, donc merci beaucoup.
Vous avez beaucoup de plaisir. J'avais un peu peur de vous parler de Maccabée, parce que c'est catholique, mais je me suis dit, quand même...